partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre au micro d'IDFM pour ce nouveau rendez-vous conte. Aujourd'hui, des histoires venues de la nuit des temps, de l'armée des ombres précisément, des histoires inconnues, oubliées, mais qui, grâce à notre invité, ne nous oublie pas. Notre invité, ancien directeur historique de la Fondation de la Résistance, co-auteur du monumental Dictionnaire historique de la Résistance, qui est la véritable bible des chercheurs qui travaillent sur cette période, l'historien Bruno Leroux est aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de la Résistance française. Je vous remercie, Monsieur Leroux, d'avoir accepté mon invitation pour que vous nous racontiez quelques-unes des histoires assez extraordinaires d'un personnage bien réel qui a participé à la grande histoire. Pouvez-vous nous le présenter et nous indiquer quel rôle vous avez joué dans la publication récente de ses mémoires ?
Son nom est Jacques Lecomte Boynet. Il est un des très rares résistants qui a été nommé compagnon de la libération par le général de Gaulle. Ses mémoires viennent d'être publiées par les éditions du Félin sous le titre « Mémoires d'un chef de la résistance, zone nord, Alger, Londres, Paris ». Comme il s'agit de carnets tenus pendant la guerre et de souvenirs écrits juste après, il fallait expliquer beaucoup d'allusions à des événements aujourd'hui oubliés et aussi faire revivre un peu les dizaines de résistants et camarades dont il parle. J'ai donc fait une édition critique avec pas mal de notes explicatives. Mais le jeu en valait vraiment la chandelle, car c'est un témoignage exceptionnel, presque unique. Par exemple, il a tenu un journal clandestin au jour le jour, en plein Paris occupé en 1944, où il a consigné tous ses rendez-vous avec les chefs de la résistance dont il faisait partie.
Voilà, Jacques Lecomte Boynet, un illustre inconnu, mais qui a joué quand même un rôle très important dans la résistance.
Oui, très peu de gens connaissent son nom aujourd'hui, alors qu'il a créé un des 8 mouvements de résistance les plus importants en France. Ce qui fait qu'il a été un des membres du Conseil national de la résistance. Il a passé 4 mois à Alger et à Londres, pendant lesquels il a rencontré de Gaulle et a participé au Parlement que celui-ci reconstituait hors de la métropole. Et enfin, pendant l'insurrection qui a abouti en 1944 à la libération de Paris en une semaine, il a été un des ministres de l'espèce de gouvernement provisoire créé par les résistants dans la capitale. Alors présentons-le. C'était un obscur fonctionnaire financier du département de la Seine. Mais comme il avait 4 enfants et une mauvaise vue, il n'a pas pu combattre en 1940. Donc une des principales causes de son engagement dans la résistance a certainement été la volonté de ne pas rester passif jusqu'à la fin de la guerre. Il l'explique lui-même, il en aurait eu honte devant ses enfants, lui qui était fils et petit-fils de militaires morts pour la France, et de surcroît marié à une des filles du général Mangin, un des principaux généraux français victorieux de la guerre précédente.
Alors au début, au moins, l'entrée en résistance pouvait ressembler à un jeu codifié, plein de secrets, mais quand même un jeu.
Oui, parce qu'il était utile que le premier contact soit assorti de précautions multiples, voire de mystères, pour assurer les nouvelles recrues sur la sécurité de l'organisation dans laquelle ils allaient s'engager. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de Jacques Lecomte Boynet qu'en octobre 1941, lorsqu'un ami lui indique qu'il peut le mettre en contact avec un groupe de résistants, le responsable qu'on lui fait rencontrer est une femme. Alors avec elle, l'entretien commence presque comme l'entretien d'un bénévole qui se proposerait d'intégrer une association. Elle lui demande quelle formation et quelle capacité il a, quel temps il peut consacrer à l'organisation. Mais quand lui lui demande quels sont les objectifs de l'organisation en question et qui la commande, alors elle devient très évasive et l'invite à une promenade. Et c'est seulement après bien d'autres propos échangés avec lui, comme pour le tester, qu'elle lui lâche quelques informations. Le grand patron, le Big Boss, est un officier de carrière, membre des services secrets français. L'organisation qu'il a bâtie est militaire, la hiérarchie très stricte. Lecomte Boynet sera sous ses ordres à elle. Il faudra qu'il obéisse parfois sans comprendre. Bon, en fait, comme bien des premiers résistants, la femme, Elisabeth Dussose, bluffe pour recruter. L'organisation n'a quasiment pas d'armes. Et du coup, Lecomte Boynet se retrouve pendant 3 mois à faire des revues de presse, de la presse collaborationniste, pour alimenter des journaux clandestins. Mais il prend cela comme une sorte de période d'essai, en quelque sorte.
Voilà, une sorte de rodage dans le grand jeu de la résistance. Et d'ailleurs, cette Elisabeth semble continuer à utiliser un même langage codé, mystérieux et parfois un petit peu inattendu dans ses conséquences, quoi.
Effectivement, le jour où Élisabeth Dussauze décide que Lecomte Boinet peut être davantage mis au courant de la structure générale de l'organisation, et l'invite à une réunion de direction, si j'ose dire, voilà comment ça se passe. Je cite « Élisabeth me téléphone pour m'inviter à faire un bridge après le dîner. Le ton de la conversation téléphonique est si naturel que je lui dis d'un ton navré « Mais je ne sais pas jouer au bridge. » À quoi elle me répond « Tant pis, vous causerez avec les morts. » Or, cette fois, le langage codé qu'emploie Élisabeth Dussauze dissimule une réalité tragique. Des arrestations ont commencé à frapper l'organisation. Le chef, le capitaine Guédon, a dû fuir et est remplacé par un autre capitaine, Henri Freinet. Du coup, lors de la réunion en question, Freinet met brutalement chacun en face de ses responsabilités. Je cite « Maintenant, je dois aborder un problème moral d'une importance capitale. Vous savez que ceci n'est point un jeu et que vous risquez la mort. Il est bien entendu que même si vous êtes torturé, vous ne devez lâcher aucun renseignement, aucun nom. Si l'un d'entre nous ne respecte pas les conditions, si par sa faute il est cause de l'arrestation ou de la mort d'un de nos camarades, il sera immédiatement exécuté. J'insiste sur ce point, si par sa faute, par sa légèreté, par inadvertance, par bavardage, imprudence quelconque, il met en péril l'organisation, je prends l'engagement envers vous tous qu'il sera mis hors d'état de nuire. » Donc vous voyez que tout d'un coup, le comte Boinet est plongé dans une autre atmosphère. En fait, il commence sa vie d'homme traqué. Et un mois plus tard, comme dans un cauchemar, les Allemands arrêtent quasiment tous les membres parisiens de l'organisation, sauf lui. Il décide alors de franchir un palier incroyable dans son engagement résistant, c'est-à-dire recréer lui-même une autre organisation avec deux ou trois de ses camarades.
Du coup, il va falloir qu'il joue un rôle pour lequel il ne se sent pas du tout préparé, celui de chef en fait.
Bah oui, parce que quand il crée cette organisation nouvelle en 1942, il lui paraît évident qu'il faut que ce soit un officier de carrière qui en prenne à un moment donné la direction, comme c'était le cas de celle à laquelle il appartenait auparavant, ou un envoyé parachuté par les Anglais ou la France libre. Ces envoyés dont on a entendu parler, mais que personne n'a rencontré. Le problème, c'est qu'il n'en trouve pas. Du coup, après quelques mois, comme ses recrues lui demandent des directives, il ne voit qu'une solution, je cite, « Si j'avais abandonné la partie, par scrupule, qui aurait repris la tâche ? Il fallait bien que je me décide à me considérer comme le patron. » Je décidais, ce qui était pourtant bien contraire à ma nature, de laisser croire aux autres, qui mendiaient des ordres, que j'étais capable de les leur donner. Ce qui était particulièrement difficile, car je devais tout inventer. Mais à force de réfléchir sur les situations qui se présentaient, à force aussi de faire parler les autres, j'avais fini par mettre au point une tactique de préparation et de guerre clandestine. Et comme personne ne me fournissait d'autres éléments qui me parussent plus raisonnables, j'avais fini par me persuader que celle-là était la meilleure. Je prescrivis aux camarades de former des petits groupes de 6 à 10 au minimum. Je demandais à chaque groupe de choisir un objectif déterminé qu'il s'apprêterait à prendre ou à détruire le jour J, c'est-à-dire le jour du débarquement, sans s'inquiéter de ce qui se passait à côté. Par objectif limité, j'entendais non seulement l'organisation de terrains de parachutage d'armes, que la prise éventuelle d'une centrale électrique. J'entendais également la collecte de renseignements militaires. Bon, en fait, le comte Boinet prépare déjà ses groupes à recevoir des armes parachutées par les Alliés, sans avoir de contact avec les Alliés, et en espérant qu'ils vont bientôt débarquer. Or, en novembre 1942, ils débarquent effectivement, mais en Afrique du Nord. De ce fait, le comte Boinet gagne tout de même son pari, car la France libre intensifie immédiatement ses liaisons avec la résistance en métropole. Du coup, son organisation est reconnue en mars 1943 comme des principales de la partie nord de la France.
Voilà, donc il explique bien qu'il ne se sent pas préparé à ce rôle de chef, que pourtant il va assumer sur le tas, on va dire, mais toujours avec un sens du comique dans le tragique. Hein, on sent que c'est un homme à la fois modeste et plein d'humour.
Oui, c'est frappant par exemple au moment où Lecomte Boinet croit se retrouver dans la situation que décrivait Henri Freinet un an auparavant. Un jour, lui, devenu le chef, se retrouve face à une réalité angoissante. Un de ses principaux adjoints détourne de l'argent. Du coup, il a une peur terrible que cet adjoint ne livre toute l'organisation aux Allemands par appât du gain. Mais comment faire ? à l'égard d'un ex-camarade de résistance. Heureusement, le grand patron des services secrets de la France libre, le colonel Passy, est en mission clandestine en France. Le comte Boinet lui soumet le problème, et là, la conversation prend un tour presque comique, car Passy vient de passer un mois à tenter d'unifier la résistance à l'échelle nationale. Donc il est visiblement exaspéré qu'on le dérange pour une vulgaire question de sécurité. Je cite. Passy, lui, n'y alla pas par quatre chemins. « Vous n'avez qu'à le tuer, me dit-il simplement. » J'eus un haut-le-corps. Puis, « Si nous faisons disparaître Louis, sa mère ne manquera pas de nous dénoncer à la Gestapo. Elle possède nos documents. Faites disparaître la mère. » Mais il a aussi une sœur qui paraît-il au courant de tout. « Tuez la sœur !» Et puis il y a dans le coup un père jésuite et une sage-femme. « Tuez le père jésuite et la sage-femme, que voulez-vous que je vous dise ?» Mais nous ne les connaissons pas. Alors vous êtes foutus, mes amis. J'ai déjà vu deux cas de ce genre, et les deux fois, les deux organisations ont sauté parce qu'on a hésité à prendre les mesures nécessaires. Et tout le monde a été fusillé. « Reste une solution, lui dis-je, c'est de l'envoyer à Londres. S'il veut bien partir, dans ce cas-là, je vous donne un avion, mais jusque-là, tenez-le en haleine et approvisionnez-le en argent doucement. » Bon, heureusement, tout cela va bien se terminer, pour une raison d'ailleurs complètement imprévue. Le comte Boinet fera tout de même le pari de se contenter d'exclure son adjoint de l'organisation. Et figurez-vous qu'il découvrira après la guerre que cet adjoint, Louis Pascano, ne détournait pas de l'argent pour son propre profit, mais pour créer son propre groupe de résistance, intitulé modestement Libre Patrie, c'est-à-dire des initiales de son nom. Un groupe qui d'ailleurs a agi près de Saint-Leu-la-Forêt.
Alors dans ses mémoires, il y a bien sûr une scène mythique, c'est celle du 14 novembre 1943, dîner avec le général de Gaulle à Alger, qu'on pourrait presque intituler « Illusion perdue ».
Oui, alors beaucoup de résistants, quand ils ont rencontré le général de Gaulle, ont eu la même impression. Mais ça vaut le coup de citer longuement. Pendant le dîner, le général ne voulait manifestement aborder aucune question politique devant sa femme. Au café, il lui dit « bonsoir » et m'emmena au premier étage dans son cabinet de travail, puis pendant 3 heures d'horloge, me parla sans arrêt et sans me poser la moindre question. Donc de Gaulle fait le tour de la situation, de la guerre mondiale, etc. Et à un moment donné, le comte Boinet essaye de caser une phrase. « Je lui demande si nous recevrons des armes. » Réponse, « C'est dépassé, car la guerre est finie, c'est sans importance. » Le rôle de la résistance est d'assurer l'ordre pour empêcher les Anglo-Américains d'intervenir dans nos affaires. Du reste, les Anglais ne donnent pas d'armes à la résistance ni à l'armée, et n'en donnent qu'aux communistes ou aux girondistes, pour faire échec à De Gaulle. Il s'appelle lui-même De Gaulle. Commentaire de le comte Boinet, c'est bien la peine de se donner tant de mal en France. Et il conclut sur De Gaulle, il a parlé tout le temps, passionné et passionnant, usant d'épithètes violentes à l'égard de quelques hommes d'Alger. Mais ce qu'il a dit à moi, il lui dit à n'importe qui. Ma personne n'existait pas. Et il ne me chargea d'aucune mission pour mes camarades de France. On a l'impression qu'il n'écoute pas, mais il enregistre, paraît-il, et en fait son profit. C'est un homme seul, trop grand, qui plane dans des espaces supérieurs et qui n'a pas accès à notre monde.
Une très belle phrase qui prouve que le comte Boinet avait aussi du style, on va dire.
Oui, tout alors, à fait.
Pendant la libération de Paris, hein, on saute quelques mois évidemment, là aussi les scènes tragicomiques se succèdent. Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, alors, je rappelle que le comte Boinet doit occuper la fonction de ministre provisoire, en quelque sorte, des travaux publics, pendant l'insurrection, tout en assistant à des réunions du Conseil national de la Résistance. Alors, cela donne lieu à des épisodes pittoresques. Premier épisode, la prise de son ministère. Qu'il doit envahir, si j'ose dire, lui-même. Bon, mais vu les fusillades qu'il entend sur le boulevard face à l'entrée du ministère, le comte Boinet adopte une tactique de contournement. Accompagné de sa secrétaire et d'un seul adjoint, il toque à la porte de l'hôtel particulier situé derrière le ministère dans une autre rue. Et là, comme il voit un mur qui sépare les deux jardins, il demande à un jardinier une échelle. Je cite la suite. « Nous montons à la queue-leu-leu, et les fenêtres donnant sur les jardins se garnissent. Quelqu'un me crie « Que faites-vous ? » Je prends un ton très solennel et je prononce mes premières paroles officielles. « Nous sommes la résistance qui venons prendre possession au nom de la France, du ministère des Travaux publics. » très satisfait de ma déclaration sur mon échelle. Je fais placer par le jardinier l'échelle de l'autre côté et nous descendons, toujours à la queue leu-leu, dans le jardin du ministère. Alors le plus drôle, c'est la conclusion de cette scène. C'est qu'un des hauts fonctionnaires du ministère, en poste sous Vichy, a vu le trio sur l'échelle, du coup il fonce vers eux et salue immédiatement le comte Boinet en lui déclarant « Monsieur le ministre, je suis à votre disposition ». Voilà, ça vous donne une idée de l'ambiance. Un peu plus tard dans la journée, le comte Boinet va à sa première réunion du CNR, avec sa secrétaire et son garde du corps. Et soudain, ils entendent des tirs en rafale au moment où ils franchissent la Seine. Du coup, ils s'abritent à toute vitesse derrière des arbres. Bon, tout d'un coup, au bout d'une minute, le garde du corps dit en rigolant « Monsieur le Président, je crois qu'on est du mauvais côté, vu la provenance des tirs. » Ça vous donne un peu l'ambiance tragicomique. Et même chose, un peu plus tard, quelques jours plus tard, où il sort d'une autre séance du CNR, le comte Boinet, tout d'un coup, doit s'aplatir derrière un réverbère parce qu'il est visé tout simplement par les tirs d'une patrouille allemande. Là encore, il se replie à toute vitesse dans un immeuble où il tente d'appeler alors son ministère en toquant à la porte d'un appartement. Alors, mais là, le couple qu'il habite a l'air tout simplement inconscient qu'il y a une insurrection. Il traite le comte Boinet d'imposteur, d'autant plus que ce monsieur leur demande un annuaire et leur expliquant qu'il ne connaît pas le numéro de téléphone de son propre ministère. Voilà, quelle est la conclusion de toutes ces anecdotes? La conclusion, c'est que le comte Boinet ne se prend pas pour un des combattants de l'insurrection. Il sait très bien qu'il est un responsable civil et que même s'il court, comme on l'a vu, de réels risques en traversant Paris, cette proximité de la mort s'accompagne d'une sorte d'atmosphère de gaieté due à la libération enfin proche et d'une volonté de ne pas se prendre pour ces vrais héros qu'il ne fait que côtoyer.
Alors, selon vous, justement, est-ce que le comte Boinet est un héros? Est-ce se considère-t-il lui-même comme un héros? Vous venez de répondre que non, mais et pour vous?
C'est incontestablement un héros, mais que sa modestie naturelle et son caractère empêchaient de se prendre pour un héros. D'ailleurs, dans ses mémoires, il se décrit lui-même comme timide et complexé, tantôt trop bavard dans les réunions avec des camarades résistants, avec lesquels il se sent en confiance, tantôt muet, parce qu'au Conseil national de la Résistance en particulier, il a affaire à de vieux militants politiques expérimentés. Et ce sont les témoignages de ses camarades, d'autres résistants, qui montrent comment il a pu tenir pendant 3 ans dans Paris occupé par les Allemands. Il a réussi à développer son organisation en mettant au-dessus de tout les impératifs de sécurité et la prudence, et en donnant lui-même l'exemple. Un de ses adjoints a dit qu'il était courageux sans s'en rendre compte. Le fait est qu'il a frôlé la mort 4 ou 5 fois, en manifestant à chaque fois un sang-froid impressionnant, une sorte de flegme britannique. En fait, le comte Boinet était doué pour la vie clandestine. Il s'est très vite habitué au dédoublement de la personnalité indispensable à cette vie, parallèle à la vie normale. Par exemple, c'était devenu une seconde nature pour lui de mener une conversation dans un lieu public en surveillant toutes les autres personnes dans son champ de vision. Il a aussi parcouru des centaines de kilomètres à pied ou à vélo dans Paris pour éviter le métro où on pouvait se trouver coincé après un contrôle policier. Et puis, il a évidemment utilisé son sens de l'humour pour faire redescendre la tension extrême propre à sa vie de résistant, toujours sur le fil du rasoir. En bref, si je devais résumer, comme la plupart des résistants, c'était non pas une personnalité hors du commun, mais un homme assez ordinaire qui, tout d'un coup, s'est révélé à lui-même et s'est découvert capable d'accomplir des actes extraordinaires.
Alors, il y a aussi des anecdotes, on le disait, à la fois tragicomiques. Par exemple, celle où le comte Boinet a échappé de très peu à une arrestation par la police, et il va tenter de trouver un petit peu le réconfort chez son cousin. Et comment ça se passe? Racontez-nous.
Alors justement, c'est ça qui montre l'étrangeté de la vie des résistants, parce que pour la plupart, ils n'ont jamais été totalement clandestins. Ils ont continué à mener leur vie professionnelle à côté de leur vie résistante, et notamment à fréquenter leurs anciennes connaissances. Et effectivement, la première fois que le comte Boinet a failli être arrêté, ça lui a tout de même fait un choc. Surtout qu'il sortait d'un immeuble juste avant son compagnon. Il va sur le trottoir, il se retourne et il voit l'autre qui est entouré de gestapistes immédiatement. Il était dans Paris et le choc est tellement fort qu'effectivement, il voit tout d'un coup à 3 pas la maison d'un de ses cousins. Il toque, c'était le soir, au moment du dîner. Et le cousin, on est chez les grands bourgeois, hein, le cousin lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» j'ai des invités. Et là, le comte Boinet doit argumenter. Bon, bah, t'as des invités, mais est-ce que tu peux pas tout de même me filer un verre de cognac? Parce que vraiment, mon meilleur ami vient de se faire arrêter. Et l'autre continue. Attends, je peux pas m'absenter. J'ai mes invités à dîner. En plus, dans mes invités, il y a la fille d'un ministre de Vichy, etc. Tu comprends? Bon. Et le comte Boinet dit, mais est-ce que, au moins, tu ne peux pas aller dans la cave me chercher un cognac? Mais il dit, je ne peux pas, j'ai toujours mes invités. Et le comte Boinet conclut, quand je pense à ce cousin, j'avais pensé comme un de mes successeurs éventuels dans la résistance.
Voilà, donc finalement, le hasard a bien fait les choses. En tombant sur cette réception, il a compris à qui il avait affaire. En
fait. Exactement, voilà. Parce que le drame des résistants, c'est que souvent, leur vie de résistants les a coupés de leur propre milieu, d'une partie de leurs amis, d'une partie de leur famille. C'est d'ailleurs le cas de le comte Boinet.
Alors, on pourrait obligatoirement évoquer un film qui s'appelle justement « L'armée des ombres », que j'évoquais dans l'introduction, dans lequel Lino Venturé interprétait le rôle de Philippe Gerbier, chef d'un réseau de résistants. À votre avis, est-ce que ça peut correspondre un petit peu à la vie de le comte Boinet?
Alors, moi, je dirais plutôt que la vie de le comte Boinet se rapprocherait plutôt de ce film, vous savez, qu'on appelait « Le père tranquille ». C'est-à-dire que quand les gens voyaient le comte Boinet, il avait des lunettes, puisqu'il était affligé d'un strabisme. Il avait le cheveu rare. D'ailleurs, les gens croyaient qu'il était professeur. Et lui-même, quand il se présentait aux autres, il disait « je suis diplomate ». En fait, c'était son rêve d'être diplomate. Mais comme il avait des bons costumes, etc., il était ravi de se présenter comme ça. Non, le comte Boinet fait justement pas penser à ces personnages de l'Armée des Ombres qui sont très sombres, en fait, parce que l'Armée des Ombres est un film sombre, où les résistants sont voués à la mort. Et le comte Boinet, je crois qu'un vraiment un de ses traits de caractère, c'est qu'il plaisantait tout le temps. Et il dit lui-même que dans les réunions, il se forçait pour en rester à ce que tous les résistants appelaient le travail. Parce qu'il adorait en savoir plus sur les gens. Et justement, dans ses mémoires, ce qui est très intéressant, c'est que quand il rencontre des résistants, plusieurs fois, il leur demande « Pourquoi avez-vous fait de la résistance ?» Il veut les connaître. Et Daniel Cordier, par exemple, le secrétaire de Jean Moulin, qui a édité ses mémoires, raconte qu'il a été très surpris. Il était tout jeune, il était habitué avec Jean Moulin à ne parler que travail. Et quand il rencontre ce chef d'un des 5 mouvements de résistance de Zone Nord les plus importants, à une réunion où il doit lui remettre de l'argent, je crois, le comte Boinet lui demande, il est intéressé par ce tout jeune homme, et lui dit « Et vous, alors qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes-vous engagé ?» Et Daniel Cordier est très choqué. Parce que le comte Boinet fait des digressions, parce qu'il, comme il disait lui-même dans ses carnets, « Je m'intéresse plus à l'humain qu'à la politique ou à l'économique. »
Ah, d'une certaine façon, la guerre et la résistance lui a permis de vivre une vie qu'il n'aurait pas vécue s'il était resté simple fonctionnaire.
Exactement.
Dans une période normale, on va dire.
Exactement. Ça l'a révélé à lui-même. Et il s'est découvert, en fait, assez fait pour la vie clandestine. Il s'est vraiment très vite adapté à cette vie clandestine. Et en fait, tout le monde dit qu'au-delà de ses aspects superficiels, plein d'humour, bavard, etc., il était extrêmement précautionneux. Très, très précautionneux dans sa vie de tous les jours.
Je pense que pour illustrer musicalement cette émission, on écoutera quelques extraits du chant des partisans. Alors c'est assez intéressant parce que ce chant des partisans, ce qui est l'hymne de la résistance française durant l'occupation nazie, la musique initialement a été composée en 1941 sur un texte russe, voyez, dû à la française Anna Marley, une ancienne émigrée russe elle-même, qui en 1940 avait quitté la France pour Londres. Voilà. Et les paroles en français ont été écrites le 30 mai 1943 par Joseph Kessel, également d'origine russe, son neveu Maurice Druon. Et c'est Joseph Kessel aussi qui écrira un livre qui s'appelle « L'armée des ombres » et que Jean-Pierre Melville va adapter plus tard en film. Donc voilà, tout se croise. On écoute quelques extraits du « Chant des partisans ».
Oh, livre nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Monsieur Leroux, selon vous, peut-on dire que ce qui se passe depuis 3 mois à l'est de l'Europe a révélé dès le comte Boynet des héros résistants par hasard, par circonstance?
Alors, si on parle des Ukrainiens, moi je dirais plutôt que Zelensky et les Ukrainiens sont plutôt comme Churchill et l'Angleterre face à l'Allemagne nazie en juin 40. Hein. Les résistants, s'il y en a, bah, c'est un peu comme le comte Boynet, on ne les connaît pas. Ce sont par exemple les Russes qui viennent de jeter des cocktails Molotov contre des bureaux
de recrutement,
dans l'armée russe il y a quelques jours. Voilà, des anonymes qui ont pris des risques énormes et dont j'espère dans quelques années on connaîtra les noms parce que ce sont eux qui sont en train de sauver l'honneur de la Russie.
Et puis, on pourrait aussi citer ce général russe qui, à la télévision russe, a déclaré que son armée faisait fausse route et n'était pas en état de gagner cette guerre. Alors, ça aussi.
Oui, exactement. Voilà. C'est donc plutôt en Russie même qu'on trouve l'équivalent de ce qu'ont été les résistants en France. C'est-à-dire des gens qui font des choses à l'actuelle qu'on peut penser symboliques, qui ont surtout valeur de témoignages, de prendre date, qui n'ont pas d'efficacité sur le plan militaire, bien entendu, mais qui, sur le plan moral, sur le plan civique, vis-à-vis du peuple russe lui-même, je le pense sincèrement, ont une valeur d'exemple et vont être cités plus tard, et vont, j'espère, surtout dans un premier temps, dans les mois et les années qui viennent, servir de détonateur un peu à des mouvements plus massifs en Russie même.
On peut aussi citer l'exemple de cette journaliste de la télévision qui, un jour, a brandi une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine.
Exactement.
En sachant, bon, du fait que ça a été diffusé dans le monde entier, on peut dire que ça l'a protégée, mais c'est quand même un acte très, très courageux, on peut dire.
Oui, et ce qui me frappe, c'est que quand vous additionnez tous les actes qu'on commence à connaître, vous voyez, un peu comme au début de la résistance, la diversité des milieux professionnels, la diversité des profils. Une journaliste, un général au gradé, et puis les gens qui ont jeté des cocktails Molotov, vous pouvez parier que ce sont des jeunes qui ne savent pas très bien parler, peut-être, et qui ont trouvé ce moyen pour agir. Et vous avez aussi, je me souviens d'avoir vu à la télévision il y a quelques semaines, une famille russe interviewée, le grand-père et sa petite-fille, le grand-père disant qu'il approuvait totalement Poutine, et la petite-fille se retournant vers la caméra, en levant les yeux au ciel, et en lui dit « Allez, viens, pépé ». Ben, elle n'a rien dit, mais on voyait bien ce que ça voulait dire.
Voilà, ainsi s'achève notre rendez-vous compte consacré aux mémoires d'un chef de la Résistance, Jacques Lecomte Boynet, aux éditions du Félin, collection Résistance, Liberté et Mémoire. Une édition établie, annotée et présentée par notre invité de ce jour, Bruno Leroux, que je remercie une nouvelle fois. Vous pouvez retrouver toutes ces histoires extraordinaires sur Internet en visionnant la conférence que Bruno Leroux a donnée le 17 mars 2022 au Musée de l'Ordre de la Libération des Invalides. Je mettrai le lien sur la page de notre podcast. Rendez-vous compte, une émission proposée et présentée par Didier Delattre. À la semaine prochaine, même heure, sur IDFM pour d'autres aventures réelles ou non, et pourtant toujours stupéfiantes. Des histoires qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous compte.